Rabbi Chiya ou Bacha. Rabbi Chiya, lisant ce verset, gémissait et pleurait. Atar Ve'ama, il a commencé à dire dans son enseignement, Vatehi Sarai Akara, en citant le verset, et Sarai était stérile, en la valade, et n'avait pas d'enfant. Vay Alze, dit-il, malheur à cela. Vay Alzmanaou, malheur à ce temps, Chialda, Hagar et Ishmael, où Hagar a enfanté Ishmael. Amalé Rabbi aussi, Velam. Rabbi aussi lui demande, et pourquoi? Hari Yalda Sarah a Harkar. N'est-ce pas que Sarah a ensuite enfanté quant à elle? Elle a Ben Gezar Kadosh, elle a eu un fils de la postérité sainte. Vous voyez quel est le sens de l'objection de Rabbi Yossé? Il ne faut pas être Ain Sarah, on dit ça en français. Il ne faut pas être. Mesquin. Bon, Agar enfanté Ishmael, Ishmael est né. Où tu vois ce malheur, puisque finalement Sarah a enfanté et que Isaac est né? Alors Rabbi Chiya lui répond. Amarle, Ataroé Vaniroé. Toi, tu vois un aspect du problème, et moi, je vois un autre aspect du problème. Mais Karcha Martim et Pige Rabbi Shimon, et c'est ainsi que j'ai entendu de la bouche de Rabbi Shimon, à Inyan, à ce sujet, vers Alzani Boré, c'est pour cela que je pleure. Vay Alzmanaou, malheur à ce temps, chez les fiches Sarah Nidrakeva, par le fait que Sarah était empêchée, sous-entendu d'enfanter, Katou, il est écrit, Vatomer Sarah et Abraham, et Sarah dit à Abraham, Bona el Chifrati, prends donc ma servante. Et la suite. Umipeneze, Amda, Ashaa, le Hagar, la Rechette, le Sarah Givirta. Et c'est à cause de cela que l'heure a été favorable à Hagar de déposséder Sarah, sa maîtresse. Ve'ayala, Ben Me'Abraham, elle a eu un fils d'Abraham. Ve'Abraham, Amar, et Abraham a dit, Lou Ishmael, Ichiel et Panecha. Fait que Ishmael vit devant toi. C'est-à-dire, à partir du moment où Ishmael est né comme fils d'Abraham, Abraham a une certaine, comment dire, complaisance vis-à-vis de lui, justifiée d'une certaine manière, puisque c'est son fils. C'est-à-dire, il y a là quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que ce fils d'Abraham, même, j'interprète un peu à ma manière, même renégat, reste pour Abraham le fils d'Abraham. Et que par conséquent, cette protection particulière d'Abraham sur Ishmael va peser, va handicaper sur l'histoire de Yitzhak. Cette chose irréversible est en réalité catastrophique, parce qu'il y a rivalité entre ces deux identités. Je continue. La frappe, Shakadosh Baruch Hu, Ayam et Vaserlo, à Yitzhak, c'est que Abraham dit, Lou Ishmael, Ishmael et Panecha, bien que Dieu lui promettait à propos, lui annonçait à propos de Yitzhak. Et d'abek Abraham Ishmael, Abraham s'est attaché à Ishmael. Regardez à quel point ce Zohar est prophétique. Comment dire ça autrement? Ad, Shakadosh Baruch Hu et Shivo, jusqu'à ce que Dieu lui a répondu à propos d'Ishmael, la suite du verset, où l'Ishmael se martira, et quant à Ishmael, je t'ai entendu, et il a sa bénédiction propre, et on voit d'après le texte que c'est la bénédiction du nombre. Avec la bénédiction de la fécondité qui a été donnée à l'homme, c'est Pérou ou Rebou, et on s'aperçoit que Rebou, c'est la bénédiction d'Ishmaël, c'est la multitude. Il n'y a pas de péri, mais il y a le ribouille. D'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose à ce propos. Donc, ça m'échappe, mais il n'y a rien. Acharkar Nimol, ensuite, Ishmael a été circoncis. Il a eu 12 fois. C'est-à-dire ça, c'est très rapidement, tant pour Ishmael qu'Esav, que les toladot, les engendrements, sont faciles et immédiatement. Tandis que, après Jacob, c'est très difficile. On a surpris les 12 tribus, nous reprenons ce thème par la suite. Ça se relie au thème que les mères d'Israël, il y a une exception pour Léa, qui s'explique pour elle-même, les mères d'Israël sont empêchées d'enfanter tant que l'enfant qui doit être au monde risque d'être une approximation. Alors chez Ishmael, c'est une impasse de multiplication. Chez Esav, c'est une impasse de multiplication. alors que l'effort des toladotes passe par Jacob. Ça, nous verrons des trucs. Ahakar Nimol, ensuite il a été circoncis, Ishmael, Benichnas Vivrit Akadosh. Et il est entré dans l'alliance de sainteté, Adchelo Yatsa Yitzhak Laolam, avant même que Isaac ne soit né. Ou Bouré, et viens voir, dit Rabbi Chia, Rabbi Yossé, Alvar Meachanim, pendant 400 ans, Amad Asarahu Shel Bene Ishmael, le prince céleste des enfants d'Ishmael, s'est tenu devant Dieu. Et a demandé devant Dieu, a intercédé pour Ishmael devant Dieu, vers Marlé, et lui a dit, Mishenimol, celui qui est circoncis, Hayeshlo Chelek Beshimcha, a-t-il une part à ton nom? Amarlohem, Dieu lui répond oui. Amarlé, il lui dit, Vahare Ishmael Shenimol, et voici que Ishmael a été circoncis, Mipenema en lo Chelek Becha kemo Yitzhak, pourquoi n'a-t-il pas de part en Torah comme Yitzhak? Amarlé, Dieu lui répond, Yitzhak Nimol Karaoui, Yitzhak est circoncis comme il faut, Veketikuno, et selon, de façon parfaite, Vezé Enokem, et celui-là, Ishmael, n'est pas dans cette. Vous savez que la circoncision d'Ishmael et celle d'Yitzhak n'est pas la même. On va rentrer dans les détails, elle n'a pas du tout la même efficacité, cependant elle existe. Velorot, et pas seulement cela, et là, chez Elou, Devekim, Bid Karaoui, Lishmon Ayamim, mais que ceux-là, les enfants d'Israël, sont attachés à moi comme il le faut à l'âge de 8 jours, dès l'âge de 8 jours, alors que les autres sont loin de moi plus longtemps. Amarlé, le sar de Ishmael, répond à Dieu, Afalpichen, malgré cela, Kivan Shenimol, puisqu'il a été circoncis, Haim lo yelo srarto ba'avourde, n'aura-t-il pas un bon salaire pour cela? N'a-t-il pas à recevoir un salaire corollaire au mérite du fait que cependant il a été quand même circoncis. Dans d'autres termes, à un autre niveau, dans tous les cas, il est le fils d'Abraham. Dans tous les cas, il est capable de reconnaître le Créateur, même si cela est imparfait, comme j'ai un peu essayé de vous l'analyser. N'aura-t-il pas un salaire pour cela? Alors Rabbi Chia continue. Vai Azmanahu, malheur à ce temps, chez Nola d'Ishmael Baolam Venimol, où non seulement Ishmael est né, mais il a été circoncis. Maasakajvohu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé les enfants d'Ishmael de l'attachement dans lui. Venatan Laem, elle leur a donné, suivez bien, Chelek Lemata Beretzakdosha, une part en bas sur la terre de la sainteté. Barabu Milaï Shebaem, grâce ou à cause de cette circoncision qu'il y a en eux. Veratidim ben Ishmael, et les enfants d'Ishmael sont destinés, l'Ishlot Baaret Sakadosha, de dominer la terre de sainteté, il s'agit évidemment des restes d'Israël, Keshu Rekam Meakol Zmanra, lorsqu'elle sera vide de tout, sous-entendu d'Israël, un long temps. Kemo Shamila Shelaem Rekanit Blishlem, de même que leur Mila est vide sans perfection. Et ils empêcheront les enfants d'Israël, Milachou Limkomam, de revenir à leur endroit, jusqu'à ce que s'achève ce mérite des enfants d'Ishmael, et les enfants d'Ishmael sont destinés, les Aoré Michamot Hazakot, de faire apparaître, enfin de faire naître des guerres dures, Baolam, dans le monde, Blitasfu bnei Edom aleihem, et les fils de Edom se grouperont contre eux, Vidgaru milchama vahem, et leur feront la guerre, Achat alayam, une sur la mer, Vachat alayavasha, une sur la terre, il faudra ajouter une autre, et une dans les airs, Vachat samur Yerushalayim, et une près de Jérusalem, Vishletu elebele, et ceux-ci domineront sur ceux-ci. C'est-à-dire, à tour de rôle, ils seront les uns les dominateurs. Ve Eretz Hakadosha, la terre de sainteté, l'otimaser l'Ibn Edom ne sera pas livré au fils de Edom, Bismanaou. Bon, ça continue jusqu'à ce qu'en fin de compte, Ishmael disparaît de la terre. Bon, je voulais vous citer ça pour vous montrer à quel point les Chachamim ont perçu, dès l'origine, cette rivalité entre Ishmaël et Yitzhak, ce que cela déclencherait à travers les péripéties de l'histoire, et nous sommes, comme vous le savez, en plein dans ces péripéties. Ce qui est frappant, c'est que au temps des Chachamim du Zohar, qui est le temps de la Mishnah, il n'y avait aucune domination d'Ishmaël encore sur le pays. C'est-à-dire que c'est un texte, si je veux dire, prémonitoire. C'est que pour les Chachamim, il est évident que l'occupation des Bnei Edom dans le pays ne peut être que contingente, parce que la descendance d'Ésaü n'a aucune achisa sur Eretz Israël, puisque la promesse d'Eretz Israël est corollaire de l'alliance de la circoncision, ce qui n'est pas le cas de Bnei Ishmaël. Je ne me souviens pas si nous avons parlé de cela la semaine dernière. Nous en avons parlé. Oui. Alors, vous reliez donc ce texte avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Et oui, donc, quel pardon je ne sais pas. C'est dans l'Echecha, à la fin de l'Echecha dans le Zohar. Il nous reste un moment, je voudrais que vous preniez la fin de l'histoire d'Ishmaël par rapport à Yitzhak dans le chapitre. À la fin de Chaye Sara. Dans le chapitre 25. Je ne sais pas si c'est 25 ou 28, regardez. 25, oui. Bien, je vais vous montrer, vous indiquer un certain nombre de remarques dans le récit en m'appuyant sur le commentaire de Rashi. Voilà, prenez la partie du verset 7. Vele Yemesh Nechay Abraham, et voici le nombre des années de vie de Abraham, Asherchai, qu'il a vécu, Meachana, 100 ans, Meshivim Shana, Vechameshanim, et 27 ans. Verset 8. Vaigra, il expira, Vayamot Abraham, et Abraham mourut, il expira et il mourut, Vesevatova, en bonne vieillesse, Zaken Vesavea, Zaken, c'est pas vieux, puisque c'est déjà dit Seva. Mais Zaken, c'est ayant acquis la sagesse de l'âge. Vesavéar est rassasié, Vayasef Ramav, et il s'ajouta à son peuple. Et quelle est la différence entre Vayivar et Vayamot? On va apprendre plus tard de Rashi d'ailleurs, et la question qui va se poser à nous, c'est pourquoi Rashi explique ce mot de Vayivar à propos d'Ishmaël, qui va être employé à la fin du texte, et non pas la première fois que cela apparaît dans le texte à propos d'Abraham. Effectivement, il y a là une question parce que Rashi a l'habitude d'expliquer un terme du Mikra qu'il y a expliqué la première fois qu'il apparaît. Et le paradoxe, c'est que Rashi va nous enseigner qu'on ne dit Vaigra, il expira, que pour un tzaddik, il va le réserver pour Ishmaël tout à l'heure, alors que la première fois que c'est employé, c'est pour Abraham. Nous verrons ce que cela nous enseigne. Alors, Vaigra, c'est un terme qui. On peut traduire par expirer, et qui est indiqué pour ceux qui ont vécu tout le temps de vie qu'ils avaient à vivre. Ça veut dire s'éteindre. Vayamot, il mourut, c'est la séparation entre l'Anshama et le goût, la séparation entre l'âme et le corps. Mais Vayivar, ça veut dire il s'est arrêté de vivre. On traduit cela en français, il expira. Vayikveruoto, Yitzhak et Ishmael banav, et l'enterrèrent, Yitzhak et Ishmael, ses fils, El Me'arat Amarpela, à la caverne de Marpela, Esde Ephron Ben Sohar, Fiti Asher Alpene Mamri. Donc, Rashi va poser une question sur le verset 8 en se demandant comment le texte peut dire que Abraham est mort, Besevatova en bonne vieillesse, alors qu'il y a une telle querelle entre Ishmaël et Yitzhak. Et vous avez ce Rashi sur le verset 9. Yitzhak ve Ishmaël. Le texte pour dire que et Yitzhak et Ishmaël ont enterré Abraham, a parlé de Yitzhak avant Ishmaël. Voici ce que Bereshit Rabba, que Sitrashi enseigne à ce sujet, Mikan, chez Asa Ishmaël, Shuvah. De là, on apprend qu'Ishmaël s'est repenti, Veolich et Yitzhak lefanav, et a fait marcher Yitzhak devant lui, Vehi Sevatova, chez Nehemra l'Abraham. Et c'est cela la bonne vieillesse qui a été dite à propos de la mort d'Abraham. Voici quel est le raisonnement. C'est-à-dire, la question posée, est bien évidente. Comment le texte peut dire qu'Abraham est mort en paix alors qu'il y a une telle querelle entre Ishmaël et Yitzhak? Et on apprend que, au moment de l'enterrement d'Abraham, qui se fait à Hebron, Ishmaël revient d'Égypte. Selon le récit biblique, il était avec Agar après que Agar a été renvoyé. Il revient chez Yitzhak à Hebron pour l'enterrement d'Abraham. Et par conséquent, il reconnaît que c'est Yitzhak qui est chez lui à Hebron, ce qui est indiqué par le verset qui met Yitzhak avant Ishmaël au moment de l'enterrement d'Abraham. C'est clair jusque-là? Alors, ce qui nous permet de comprendre pourquoi, à la fin du texte, vous prenez au verset 17, lorsque le texte parle de la mort d'Ishmaël, « Ve'ele shene chaye Ishmaël », verset 17, « Et voici les années de vie d'Ishmaël, « Me'at shana u'shloshim shana ve'shebar shanim » 137 ans, « Va'igvar va'yamot va'yasef el amav » Rashi dit sur Va'igvar, « Lo ne'emra gviya ela betzadiki » On indique ce terme de gviya, expiration, si je veux dire, comment on dit comme ça en français pour expirer, pas la monnaie. Gviya, c'est le fait d'expirer. Non, mais avec le mot de expirer, ça se dit expiration, non ? Ça existe, ça. Que pour les tzadikim. Ça veut dire que, à la fin de sa vie, Ishmaël ayant fait tchouva, peut être appelé tzadik. Or, on a appris que lorsqu'il est dans la maison de son père, et dans l'histoire, il s'agit de l'islam, il fait tchouva vis-à-vis des valeurs d'Abraham. Il n'est plus idolâtre, il n'est plus débauché, il n'est plus meurtrier. Mais il n'achève vraiment de faire tchouva quand il a fait tchouva vis-à-vis de Yitzhak, c'est-à-dire qu'il reconnaît que Yitzhak est chez lui à Hebron. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que depuis la guerre des six jours, c'est-à-dire depuis le moment où nous avons affaire avec des territoires apparemment sous souveraineté musulmane, qui bien apparemment, parce que légalement, cela n'a pas de base, je crois que c'est de cela dont je vous ai parlé la semaine dernière, il y a une difficulté supplémentaire pour la reconnaissance du monde entier des droits d'Israël sur cette terre. Là, donc, nous avons étudié, c'est relié avec ce que le Zohar a enseigné concernant le Zchout de la Brit Mila. Je voulais ajouter, je ne sais pas si j'ai dit suffisamment clairement la dernière fois, que ce Zohar porte une accusation terrible sur les Juifs qui ne viennent pas dans le pays d'Israël. Parce que c'est très clair ce que le Zohar nous dit. Les droits d'appartenance de cette terre, c'est Israël si Israël est là. Si Israël n'est pas là, c'est Ishmaël. Est-ce que c'est bien clair? Et par conséquent, la suite coule de source. Un juif qui n'est pas là, c'est un arabe qui est là. Et vous devinez la responsabilité que cela implique. Dans les temps du retour, comme dit le Zohar, pour tous les juifs qui restent en Gola pour quelque raison que ce soit. Donc, je referme la parenthèse. Et ce que je voulais ajouter, c'est que, au sujet de cette différence, ça m'échappe, mais ça va me revenir. Oui, c'est que dans toute la Judée et la Samarie, et finalement le territoire de Gaza ou même le Sinaï, quelle que soit la parenthèse du Sinaï, c'est seulement à Hebron qu'a été installée une ville juive. Effectivement, ça aurait pu être à côté de Shrem, ça aurait pu être à côté de Jéricho, ça aurait pu être à côté de Gaza, mais non, c'est à côté de Hebron que Israël a décidé d'installer une ville juive qui est Kiryat Arba, comme vous le savez. Alors c'est extrêmement frappant, c'est que c'est pas du tout le Likoud qui a installé Kiryat Arba, c'est le Maharar. Et il est bien évident que le Maharar n'avait aucune idée de ce qu'a raconté le Zohar. C'est-à-dire que lorsque la réconciliation se fera, si elle se fait, elle se fera à Hebron. Or, ce qui est frappant, c'est que tout est disposé à Hebron pour cette rencontre entre Ishmaël et Yitzhak. Je dois vous apparaître très optimiste, étant donné ce qui se passe autour de Kiryat Arba et de Hebron. Bon, seulement il faut être réaliste. Ces textes existent depuis des siècles. Et en fin de compte, c'est de notre temps que ce dont il parle se réalise. Et tout est en place pour que cela se réalise. Et voilà ce que je voulais ajouter. Bien. Il nous reste quelques minutes, si vous avez des questions là-dessus.
Okay.
J'ai pas dit cela. J'ai dit que Ismaël ne nous parle pas. Il ne parle pas dans le texte. Ce qu'il y a, ce que je veux signaler, c'est que juste après, il disparaît. Okay. Juste après, il disparaît.
Okay. Ça parle tout seul. ולכן מתעוררים תעוררות לאומית. אז לפי דבר הרב, רק יישוב וסיפור השטחים, הוא ימנע את הבעיות האקטואליות היום.
יישוב וסיפור זה שני דברים שונים. Je réponds en français pour tout le monde. Ce qu'il a demandé, c'est que vous avez compris sa question, grosso modo. Ce qu'il a demandé, c'est qu'il ressortirait de ce qu'on a étudié, c'est que ce sursaut de nationalisme arabe dans les territoires vient de ce qu'il n'y ait pas une souveraineté politique juive sur les territoires, et que par conséquent, la solution qui serait indiquée, semble-t-il, serait un peuplement juif des territoires et une annexion des territoires. En fait, je crois que le peuplement et l'annexion sont deux problèmes différents, mais voilà ce que je voulais dire en réponse. C'est que le Zohar a dit très clairement que quand il n'y a pas Israël sur la terre, alors s'il y a un problème de droit à qui dans le monde cette terre appartiendrait, ce serait Ishmaël. Et il a ajouté immédiatement, et c'est pourquoi c'est Ishmaël qui s'opposera au retour des Juifs au temps du retour. Je crois que c'est cette deuxième partie qui est encore la plus importante. Je vous répète ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Au temps de l'enseignement de la Mishnah, il n'y avait pas du tout de prétention d'Ishmaël, sinon théorique, académique. Il y a un passage dans la Gemara de Sanhedrin où on voit les Arabes venir réclamer les droits sur Eretz Israël, en disant Eretz Israël, chez la Chem et chez la Nouji. Je rappelle de ce passage. Bon, la Gemara répond ce qu'elle répond. Mais dans tous les cas, ça signifie que ceux qui renforcent leur prétention, c'est qu'il s'agissait de territoires, comme on dit, qui n'étaient pas peuplés par des Juifs. Je dirais deux choses. Donc, ce n'est pas tellement un problème de souveraineté politique encore, c'est un problème de présence physique des Juifs sur le territoire en question. Et j'ajouterai ceci, ce qui s'est dévoilé dans les derniers événements, c'est que même dans les territoires peuplés par les Juifs, leur prétention est la même. Je crois que l'événement le plus important qui s'est produit ces dernières semaines, c'est que les Arabes israéliens se sont démasqués en disant que leur combat était le même que celui des Arabes soi-disant palestiniens. Voici enfin, si c'est suffisant. C'est-à-dire que même sur les territoires où il y a souveraineté politique juive, Israël, les Arabes israéliens, la prétention d'Ismaël est la même. C'est une question de comment dire, de nombre de populations. Donc, le mot n'est pas suffisamment exact. De poids de la présence juive. Je crois que le problème est très clair. C'est-à-dire, la grande difficulté nous vient des juifs de diaspora. C'est-à-dire, s'ils étaient en Israël au lieu d'être en diaspora, les problèmes auraient une toute autre allure. La revendication de la souveraineté politique resterait la même. Les pays arabes, donc c'est évident, réclameraient tout autant le droit à la Palestine, comme ils disent, mais le fait accompli de population n'aurait pas du tout le même sens. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. En plus, d'un point de vue purement théorique, il semble bien, nous en avons souvent parlé, que la motivation du judaïsme qui reste en diaspora, surtout lorsqu'il se motive pour une argumentation religieuse et au nom de la Torah, est exactement la même que celle de l'OLP. Ça veut dire que le judaïsme n'est pas une nation, mais une religion. La preuve, les juifs religieux qui ne veulent pas être israéliens. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Attendez une minute, avant votre question, ce que je voulais dire, c'est qu'on a peu de temps, donc je voulais un peu résumer, c'est que, étant donné que nous sommes en train de vivre des événements très intenses, depuis une quarantaine d'années, un peu plus, le fait qu'il y a une perplexité dans le peuple juif, est-ce que c'est le temps du retour ou pas? Que cette perplexité, après 2000 ans, est nourrie le plus, enfin les milieux qui nous intéressent, est nourrie le plus souvent de motivation au nom de la Torah. Alors je voulais vous indiquer cela, et corrélairement au fait que la pression du monde extérieur, surtout du monde arabe, se fait et se dévoile, je pense, de façon irréversible, comme elle l'est, d'une revendication pure et simple. Il ne s'agit pas de négocier tel ou tel territoire, il ne s'agit même pas de négocier du principe de l'existence d'Israël comme nation sur sa terre ou pas. Je pense que c'est clair. Eh bien, de vous indiquer que les textes de la Torah disent exactement le contraire. Et que c'est un procès qui dure depuis 4000 ans, depuis qu'Ishmaël est né avant Isaac. Nous sommes en train de vivre, une derrière probablement la dernière péripétie, il faut le souhaiter. Mais que la Torah sait ce qu'elle dit, sait ce qu'elle veut, qu'on ira jusqu'au bout dans ce conflit, et que c'est Israël qui sera triomphant. Maintenant, à quel prix? Eh bien, ça dépend en particulier de ce que nous a dit le nombre de juifs qu'il y a ici. Lorsque Israël était en exil, la Shrina était en exil avec Israël. Lorsqu'Israël revient, la Shrina revient. Elle revient au prorata du nombre des juifs qui reviennent. Nous avons une Shrina indexée à la population israélienne.
Ce que je veux dire, c'est que je reprends le texte du Zohar que vous avez cité, à savoir que la terre d'Israël appartient à Ishmaël tant qu'Israël n'est pas sur sa terre, et que c'est la raison pour laquelle Ishmaël s'opposera au retour d'Israël sur sa terre. Oui. Ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire que...
Le Zohar semble dire ça, continue.
Le Zohar semble dire ça. Je l'interprète comme ça, ce qui veut dire que si on arrive à peupler au maximum les territoires, tant mieux. Sinon, à ce moment-là, ça veut dire que c'est Ishmaël qui aura la souveraineté sur ce territoire. Ce qui veut dire, grosso modo, que c'est une course, quoi. Je veux dire, c'est le premier qui arrive qui a raison.
Maintenant, je crois que c'est engagé dans des conduites irréversibles, parce qu'il y a le nombre de populations qu'il y a. On ne peut plus dire, on change les cartes. Les cartes sont ce qu'elles sont. C'est le peuple juif qui a décidé. J'ai toujours été frappé par le fait que les juifs de la diaspora, surtout américaine, qui financent la Sortnout, ont toujours mis comme clause depuis 1967 qu'aucun argent qui viendrait de la diaspora ne soit utilisé pour Yehuda Veshomron. Je ne sais pas si vous savez ça. Ah, vous ne savez pas en plus. Ça veut dire que c'est la diaspora qui s'oppose. Je crois qu'il y a une prise de conscience très profonde de la diaspora qui est assez inquiétante, que je pourrais formuler de façon un peu méchante d'ailleurs, parce que c'est schématique, tout ce qui est schématique est méchant. L'inverse n'est pas forcément vrai. Tout ce qui est méchant n'est pas forcément schématique. C'est que si Israël a raison, la diaspora a tort. Alors il faut démontrer qu'Israël a tort. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Non. Comment expliquer ça autrement? C'est en clair. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre que la majorité de l'opinion publique des juifs de la diaspora, disons ceux qui ont la maîtrise du budget de la Sortnout, sont contre l'installation d'Israël dans Yehuda Veshomron. Alors, il y a qu'à réfléchir au fond, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne faut pas que Israël ait raison sur le fait fondamental que c'est le temps du retour, et que c'est le temps du retour, Nekouda, un point. Et dans le conflit que nous avons avec la nation arabe, qui est un empire énorme, et d'où le raisonnement que je viens de dire, si Israël a raison, la diaspora a tort, alors pour que la diaspora n'ait pas tort, il faut que ce soit Israël qui a tort, donc Israël a tort. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, le problème est encore beaucoup plus grave que ça. Premièrement, en 48, à partir de 48, les premières années, l'opinion publique en diaspora était culpabilisée. Je ne sais pas, le mot est peut-être trop fort, d'ailleurs, ça va faire trop d'honneur. Il y a une sorte de gêne. Les juifs qui n'étaient pas en Israël étaient gênés de ne pas être en Israël. Puis ça a changé au bout de 40 ans. Est-ce que c'est clair? Vous avez suivi ce que je veux dire? Et pourquoi c'est beaucoup plus grave? Parce qu'il me semble, et ça nous le verrons dans les prochains cours avec Ressa, que plus ou moins inconsciemment, mais très profondément, les Juifs de la diaspora et la chrétienté ont un problème analogue qu'ils mettent en commun face à Israël. Alors ce qui est très paradoxal, c'est que le judaïsme américain et le Vatican ont la même position vis-à-vis des territoires. Et effectivement, de quoi s'agit-il? Ça doit vous frapper, cela. C'est d'un manque d'humour épouvantable. Okay. De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, subitement, la chrétienté découvre que c'est les Juifs qui sont Israël, après 2000 ans où les Romains sont pris pour Israël. Alors si c'est les Juifs qui sont Israël, la chrétienté c'est quoi? Vous avez entendu parler de l'expression chrétienne, le mystère d'Israël. Okay. Maintenant c'est le mystère de l'Église. C'est évident. Or, il y a une question analogue pour les Juifs de diaspora. Si c'est les Israéliens qui sont Israël, les Juifs c'est quoi? La diaspora c'est quoi? Et alors, vous avez deux, c'est un problème très, très important, parce que ou bien c'est la diaspora d'Israël, alors ça veut dire que c'est des Israéliens de l'étranger, et il faut régulariser d'une manière ou d'une autre, ou bien c'est une autre entité d'un autre Israël qui ne serait pas Israël, exactement comme l'Église. C'est clair ce que je veux dire? Et alors, ça nous explique la prolifération des amitiés judéo-chrétiennes, parce qu'ils ont un problème analogue face à Israël qu'ils mettent en commun. J'étais un peu méchant, mais pas tellement.
Justement, à ce propos, à partir de quel moment Israël devient adulte et majeur sur sa terre?
Qu'est-ce que tu veux dire avec cette question doublement insidieuse?
Et à partir de combien on peut considérer que...
À partir du nombre?
Ouais. Est-ce que
vous, si vous êtes... Écoute, je...
Est-ce qu'on est au problème démographique
pour répondre à un problème démographique instantané, le riz représente, il faut répondre par un problème démographique, comment dire, global, le riz au futur. Mais mettez-vous il y a 40 ans dans le pays, puis il y a 20 ans, la disproportion démographique était tout à fait autrement catastrophique qu'elle est maintenant. Ça n'a pas empêché le bon Dieu de faire exister Israël. Quand est-ce qu'il y avait la vie de citer le rab, j'ai oublié le nom, la parole de Rachel, que dès qu'il y aurait 600 000 juifs dans le pays, et bien dès qu'il y a eu 600 000 juifs dans le pays en 1948, l'État d'Israël a été. Une fois que c'est déclenché, je peux comment dire, beaucoup de gens cherchent des signes. C'est un peu le sens de ta question. À quel signe? Eh bien, c'est l'événement lui-même qui est son propre signe. Parce qu'il y a une massivité de 2000 ans, et puis subitement ça arrive. Alors quand c'est commencé, c'est commencé. Je pourrais le dire un peu de cette manière. Si Dieu a commencé une mitzvah, on est sûr qu'il va jusqu'au bout. Il ne joue pas au but. Okay. Alors, subitement, il a décidé, il sait pourquoi, d'accomplir un verset de la Torah, ils reviendront. C'est lui qui est en train de faire ça. Alors on est tranquille, c'est lui. Si ça dépendait de nous, on serait un peu inquiet. Je le dirai encore sous une autre forme. Parce que la question se pose à un certain niveau comme ça. Puisqu'on a parlé de Sarah, qui en fin de compte a conçu et enfanté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme est un petit peu enceinte? Ou elle est enceinte, ou elle est pas enceinte? Alors ça a commencé, c'est fini. C'est clair?
C'est ce que je veux dire. Une question qui peut être optimiste. On a vu que. On voit que Ishmael fait des chouvins.
À la fin.
Est-ce que. Pour la fin, est-ce qu'on peut espérer. Je ne sais pas sur quelle base Ishmael fait des chouvins face à Israël. Est-ce qu'on peut espérer que les armes d'Israël feront aussi des chouvins? Et s'il y a des chouvins sur quelle base?
Quand on parle d'Ishmael, il s'agit d'Ishmael. C'est-à-dire que la nation arabe, dans son ensemble, reconnaîtra que c'est Isaac qui est chez lui en Israël. Les Arabes d'Israël, comme tu dis, c'est une petite partie de Ishmael. Okay. C'est un événement qui nous dépasse considérablement. Ça arrivera. Tout ce qu'on sait, c'est que ça arrivera. Je racontais pour terminer une des choses que nous avons appris du Rafouk au moment de à la guerre des six jours de 68. Avant 68, le pays était partagé en deux, la frontière passait à Jérusalem. Et à Pessah, on montait dans la plus haute maison de la ville juive pour voir de très loin le côté parce qu'il y a une bracha à dire. Et alors, on regardait ça comme une autre planète, que ça se passait dans notre monde. C'était a priori impossible de penser qu'un jour on mettrait les pieds de l'autre côté de la frontière. C'était impensable. Je me rappelle encore, avec une jumelle, on voyait au loin un autobus jordanien, il était en panne tous les 10 mètres, mais en fait c'était... le rêve. Et puis, subitement, c'est arrivé, on est rentré dans Jérusalem. Et comment c'est arrivé? Une histoire de fou. C'est Hussein qui est devenu fou. On ne lui demandait rien. La guerre était avec l'Égypte, vous vous rappelez, hein? Et puis la Syrie, et puis Hussein qui décide absolument, moi je suis un musulman pieux, je sais que Jérusalem vous appartient, venez la prendre. C'est comme ça que c'est arrivé. Et personne ne pensait à Jérusalem. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, comment ça va arriver? On n'en sait rien. Mais de la même manière que les choses qui arrivent et qu'on n'en sait rien arrivent, ben, ça arrivera. Et vous avez compris ce que je veux dire? Et essayez d'imaginer ce que pouvait être l'espérance Jérusalem avant 68. Un rêve absolu. Et subitement, il est arrivé une chose inouïe. Hussein est devenu fou ce jour-là. D'ailleurs, on raconte que Teddy Kollek a fait téléphoner par les officiers de l'ONU à Hussein pour lui dire « Sérieusement, tu veux que je sois le maire de Jérusalem réunifié ? T'es fou !» Attends, je n'ai pas compris, répète.
Une revendication pour une terre, parce que finalement l'Israël donnera ses fruits, et se donnera complètement.
Ah bon, mais ça, eux, ils ne sont pas censés avoir lu le Ramban.
Mais justement, ils veulent essayer aussi.
Et diront, c'est l'antisémitisme, du racisme. Mais je veux dire, il y a un peu une allusion là dans notre texte. C'est les fils d'Abraham. C'est-à-dire, ça les travaille inconsciemment. Il y a un musulman, je ne sais pas moi, pakistanais, perse, indonésien, vous dites Jérusalem, il rentre en transe. D'où ça lui vient? Ça lui vient de l'islam d'Abraham. Ce chapitre de la Torah est énorme. Hein? Le fléchissement de la foi a fait naître Ishmaël. Eh bien, il est né, il existe. Et donc ça travaille comme ça. Je vous raconter juste une anecdote. Il y a une quinzaine d'années, je me trouvais à Strasbourg. Faire une conférence, et puis à la fin de la conférence, il y a un brave juif qui se lève, un rapatrié d'Afrique du Nord à l'accent, aux oreilles qui tue, et c'était bizarre à Strasbourg, un Nord-Africain rapatrié. Quand est-ce que ça a été sa patrie, j'en sais rien, mais bref, il se lève avec un accent que j'ai encore dans les oreilles, il dit, mais monsieur le rabbin, et les Palestiniens? Alors, il m'a dit, tout ça c'est joli, mais et les Palestiniens? Alors je lui ai répondu, vous savez, les Palestiniens, on finira par faire la paix avec eux parce qu'ils se font tuer pour l'amour des rêves d'Israël. C'est ta question. Les Juifs de Strasbourg, je sais pas. Ils préfèrent Strasbourg. Et puis d'ailleurs, on n'est pas en guerre. Vous voyez la gravité du problème? C'est-à-dire, ça les travaille, cette terre. Et pourquoi? Eh bien, c'est ce que le Zohar a dit.
J'ai une dernière question. On voit que dans tout le thème, dans tout chacun, Ishmaël et Israël ne parlent pas ensemble. Alors nous, je veux dire, à l'heure actuelle, quel doit être notre comportement? Est-ce que si Ishmaël, lorsque Ishmaël fera Tchouba, est-ce que nous, juifs, on a un rôle à jouer là-dedans? Et comment?
Pour qu'il fasse Tchouba, je peux te donner qu'une opinion personnelle. Je crois que c'est un problème général. Il n'y a rien de plus efficace que la vérité. Lorsqu'on dit à un homme, même Ishmaël, la vérité, il l'entend. Alors tant que les juifs ont des doutes, est-ce que cette terre c'est à eux ou à nous? Alors ils sont en plein doute. Si on dit la vérité, n'ayez aucune illusion, ils finiront par l'entendre. Oui, on va s'arrêter parce que...